Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, qui que tu sois riche ou pauvre, blanc ou noir. Même si tu es bien à tous les points de vue, tu as besoin du Seigneur Jésus quand même. Parfois, on pense que Dieu, c'est utile pour ceux qui n'ont rien. Ceux qui ont besoin tout le temps de quelque chose, de quémander un matériel à Dieu. Mais Dieu, c'est pour tous, les riches, les pauvres, les faibles, les forts. Dieu est pour tous et tous nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur car le Seigneur détient le bien le plus précieux. Le Seigneur détient un bien que rien ni personne ne peut nous donner. Le Seigneur détient la vie éternelle, la vie en abondance. Ni une situation sociale, ni une situation politique, ni une situation financière ne peut garantir à quelqu'un la vie éternelle. Par nos propres moyens, nous pouvons réussir à bâtir une belle maison, une carrière, une famille. Mais qu'est-ce qui nous arrive un jour? Eh bien, un jour, il nous arrive que malgré tout ce que nous avons pu bâtir, la mort nous visite. Et la mort nous visite, qui que nous soyons. On entend des enterrements d'artistes, on entend des enterrements d'indigents, on entend des avis de décès pour des hommes célèbres, on entend des avis de décès pour des bébés, on entend des avis de décès pour des personnes âgées. La mort nous visite tous. Et puis, même si nous avons bâti une belle vie, après, nous avons tant travaillé, parfois fait une maison, nous avons construit une carrière professionnelle, bâti une famille, et puis nous en jouissons combien de temps? Oh, allez, maximum une centaine d'années. Vous allez me dire, ce sont déjà les plus chanceux, une centaine d'années. Mais vous avez remarqué une chose, en tout cas, quelqu'un me l'a dit la semaine dernière. Je ne sais pas si vous partagez son avis. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, Tony, je remarque une chose. J'entends de plus en plus d'avis de décès concernant des personnes entre 40 et 50 ans. Et il me disait, tu sais, bizarrement, ce ne sont pas des gens qui décèdent par accident, mais ce sont souvent des cancers, des AVC, etc. Comme s'il me disait, la mort est comme la vie, comme le monde. La mort est très pressée d'en finir avec nous. La mort nous visite tous. Et puis tout ce que nous avons bâti, eh bien, après, on ne l'a plus. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan qui consiste à dire, je peux t'aider pour ta vie ici et maintenant. Mais Dieu dit, j'ai un plan qui peut t'aider à prolonger ta vie jusque dans l'éternité. Avec Dieu, c'est vivre mieux maintenant et vivre plus dans l'éternité. Mais alors vous me direz, mais comment ça marche? Puisque on entend de temps en temps des enterrements pour des personnes complètement méchantes, dépravées, mais on entend souvent des avis de décès d'hommes qu'on appelait des hommes justes, des hommes bons. Vous allez me dire, mais comment ça marche? Cette vie éternelle que Dieu promet, mais à quel moment ça marche? Puisque tout le monde meurt. Ceux qui acceptent Dieu comme ceux qui ignorent Dieu. Eh bien, je vais vous dire comment ça marche. Ça marche parce que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est une vie après la mort. Une vie après la mort. Dieu a un plan merveilleux que la Bible appelle la résurrection. Dieu a un plan merveilleux que la Bible appelle la résurrection. Autrement dit, quand on meurt, tout n'est pas fini. Quand on meurt, on ressuscite. C'est le plan de Dieu. Alors, vous me direz, mais la résurrection, tu es sûr que ça existe? Eh bien, moi, je vous réponds. Si la résurrection n'existe pas, si la résurrection ne fonctionne pas, il nous faut partir d'ici tout de suite. Si la résurrection n'existe pas, il ne sert à rien d'avoir des églises, des Bibles et des réunions de prière. Regardez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, si la résurrection n'existe pas, il ne sert à rien de vivre en chrétien. Regardez, lisez cela avec moi. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 32, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est inspiré par l'Esprit de Dieu. L'apôtre dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Oui, mes amis, si vous ne croyez pas que la résurrection existe, vous pouvez vous lever et partir. Brûlez vos Bibles et n'allez plus à l'église. Parce que si la résurrection n'existe pas, où est la différence entre le chrétien et celui qui ne croit pas? Où est la différence entre celui qui se sacrifie pour Dieu et celui qui se laisse aller pour le diable? Où est la différence? Il n'y a aucune différence. Les deux vivent, les deux sont parfois malades, les deux ont des tourments et les deux meurent. Où est la différence? Si la résurrection n'existe pas, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Si la résurrection n'existe pas, il ne sert à rien de perdre son temps dans le christianisme. D'ailleurs, mes amis, la Bible témoigne avec force de cette vérité. Vous allez lire en rentrant chez vous ce soir. Notez, vous lirez en rentrant chez vous ce soir le psaume 73. 73, 7 et 3. Mais ici, nous allons lire quelques extraits de ce psaume. Ce psaume, c'est un homme croyant qui a écrit ce psaume. Ce psaume a été écrit par un chrétien, une personne attachée à Dieu. Quand vous lirez le psaume, vous verrez qu'il commence ses déclarations en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël ». Celui qui a écrit ce psaume, c'est un croyant. Mais vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé à un moment de sa vie? Il a regardé la vie. Il a regardé autour de lui. Il a regardé ce qui se passait. Et il dit « Mais je ne comprends pas. Je suis croyant, je suis fidèle, j'ai des problèmes. J'ai l'impression que je regarde mes voisins qui se moquent totalement de Dieu, qui n'ont rien à faire du Seigneur, et je les vois bien. Je vois que leurs affaires marchent. » Et il s'est posé la question, mais à quoi ça sert d'être chrétien? Regardez, lisez un extrait avec moi de ce psaume, le psaume 73. Nous allons lire verset 12 et verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 73, verset 12 et verset 13. C'est un croyant qui parle, un croyant qui regarde le monde. Et il dit, « Ainsi sont les méchants. Toujours, 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 ils accroissent leur richesse. » Est-ce que vous avez déjà eu cette impression dans votre vie? Que plus on est magouilleur, plus à faire qu'à marcher. Vous avez déjà eu cette impression? Vous vous êtes déjà retenu pour ne pas faire quelque chose de malhonnête et puis vous voyez qu'après vous êtes dans le besoin et que vous voyez que celui qui se livre à la malhonnêteté, ça fait qu'à marcher. Comme dit la Bible, il est gras, il est rond. Vous avez déjà eu cette impression? Eh bien, si vous avez eu cette impression, eh bien c'est naturel. Parce que sur terre, mes amis, dans cette vie présente, on ne voit pas toujours la différence entre le bon et le méchant. Parfois, on regarde le méchant, on a l'impression qu'il est heureux. Verset 13, qu'est-ce que vous lisez? Il dit, c'est donc en vain, c'est-à-dire inutilement. C'est donc inutilement que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui un jour s'est déjà dit ça? Gaffez-moi qu'apprend pour moi supporter le nom de Jésus et puis a rien pas qu'à marcher en la vie moi. Il y a certainement ici quelqu'un qui un jour a dit ça, mais à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert de donner sa vie à Jésus? Puisque j'ai l'impression que les gens qui se moquent de Jésus, ils sont mieux, ils trichent, ils réussissent. Je suis honnête, je ne réussis pas toujours. Et parfois, quand ça arrive, nous sommes tentés. Nous disons, mais est-ce que ça vaut la peine d'être un croyant? Est-ce que ça vaut la peine d'être un chrétien, de se sacrifier? On se pose cette question, est-ce que c'est inutilement que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Mais vous savez, comme cet homme était un vrai croyant réfléchit et prie. Un vrai croyant réfléchit et étudie sa Bible. Un vrai croyant ne se laisse pas conduire par ses émotions, ses sentiments. Un vrai croyant est conduit par des principes. Et le principe le plus grand, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Regardez ce qu'il a fait. Toujours dans le psaume 73, la Bible dit, il va faire une chose. La Bible dit dans le psaume 73, avançons, psaume 73, verset 16 maintenant. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il réfléchit, il dit, mais c'est compliqué, je ne comprends pas ça. Mais mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une deuxième chose. En plus de réfléchir, il fait une deuxième chose. Verset 17 maintenant. Il dit, quand je réfléchis, la difficulté est grande. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde à quoi? Au sort final des méchants. Oui, mes amis. Si nous voulons comprendre l'utilité de la fidélité, l'utilité d'un attachement à Dieu, il nous faut dépasser le présent pour aller vers l'éternité. Il nous faut regarder non seulement le présent, mais le sort final du juste et le sort final du méchant. Maintenant là, sur la terre, mes amis, ce n'est pas toujours évident de faire la différence. Mais la Bible nous donne une garantie. La Bible nous donne une assurance. Un jour viendra où on verra la différence entre le fidèle et l'infidèle. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que le méchant ne finira pas comme le juste. Le méchant ne finira pas comme le juste, mes amis. Prenez vos Bibles. Si quelqu'un n'a pas une Bible pour suivre, eh bien, que cette personne lève la main. On lui donnera une Bible pour suivre. OK, il y a un monsieur au milieu du couloir. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait une Bible pour lire elle-même dans la parole de Dieu? OK, ici, devant, là, merci beaucoup. Voilà, que chacun ait une Bible. Et quand vous venez le soir, prenez toujours l'habitude de prendre une Bible à l'entrée. Comme ça, vous pourrez suivre. Parce que nous voulons que l'essentiel, vous puissiez lire de vos yeux dans la Bible. Et ça vous apprend aussi à manipuler la Bible, à vous familiariser avec la Bible. Si vous avez votre Bible à la maison, quelle qu'elle soit, venez avec. Comme ça, vous verrez que ce qui est dit est bien dans la Bible. Si vous ne possédez pas de Bible, vous n'avez pas du tout de Bible, et que vous avez envie d'avoir une Bible qui soit à vous, quand la conférence est finie ce soir, venez me voir. La Bible dit quoi? Le méchant ne finira pas comme le juste. Jean chapitre 5, verset 24. Prenez avec moi l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament, chapitre 5 et le verset 24. Jean 5, verset 24. Et lisons tranquillement ce texte parce que c'est tellement important qu'il ne faut pas courir en lisant la Bible. Quand on lit la Bible, il vaut mieux lire un petit morceau et prendre le temps de bien comprendre une petite portion que de courir un peu partout. Lisons. Jean chapitre 5, verset 24. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a quoi? La vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ensuite, verset 25, Jésus dit encore, « en vérité. » Quand Jésus commence une phrase avec cette expression, c'est parce qu'il veut marquer l'importance de ce qu'il va dire. « en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors vous avez remarqué qu'il dit l'heure vient et il dit l'heure est déjà venue. Pourquoi il dit ça? Parce que il dit l'heure est déjà venue parce que pendant son temps où il était sur terre, Jésus, il a ressuscité des morts. Mais il dit l'heure vient comme s'il est en train de dire vous voyez les résurrections que je fais maintenant? C'est un échantillon d'une plus grande résurrection qui va se passer un jour. Regardez ce qui va se passer un jour. Il dit au verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a été donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombes, entendront sa voix, donc la voix de Jésus, la voix du Fils de l'homme, entendront sa voix et en sortiront. Relisons ce verset. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voulez que je relise le verset 29? Je relis. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Autrement dit, tout le monde va ressusciter, le juste comme le méchant. Tout le monde va ressusciter un jour, mais pas pour la même destinée. La Bible dit, en résumé, ceux qui auront fait le bien ressusciteront quoi? Pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront quoi? Oui, mes amis, un jour, on verra une différence nette entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. On verra une différence nette entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui ont renié Dieu. On verra une différence nette entre ceux qui ont eu un christianisme d'apparence, de convenance et ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus. On verra une différence nette entre ceux qui sont entrés par la porte étroite et ceux qui sont entrés par la porte large. La porte large, qu'est-ce que c'est? C'est une porte, hein? La porte large, c'est une porte. La porte étroite, c'est une porte. Cette expression désigne la religion. La porte étroite, c'est la religion du Christ, parce que Jésus a dit, je suis la porte. Mais c'est une porte étroite, une porte tellement étroite que pour passer dedans, des fois tu es obligé de te décharger un peu. Mais la porte large, c'est la porte par laquelle on passe sans se décharger. Oui, mes amis, je sais que Beaucoup de personnes pensent que l'église adventiste, c'est une église qui est trop exigeante. On demande trop de choses aux gens. Il faut abandonner trop de choses. Il faut abandonner bijoux. Il faut abandonner danser. Il faut abandonner le dimanche et observer le sabbat. Il faut arrêter de manger du cochon. Mais mes amis, ça, ce sont des choses qu'il nous faut comprendre que par moment, quand on veut entrer pour servir le Seigneur, il faut se décharger de certaines choses. Il faut se dépouiller de certaines habitudes. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec tout. Il y a des choses qu'on est obligé de laisser dehors. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas une religion facile. Jésus a même dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Jésus a dit aussi, ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront dans mon royaume. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mes amis, nous pourrions, pour remplir nos églises, prêcher une religion facile. Nous pourrions dire à tout le monde, venez, Dieu vous aime, il n'y a pas de problème, vous êtes sauvés. Nous pourrions faire ça, l'église serait remplie. Mais je serais perdu si je faisais ça. Parce que l'évangile, mes amis, ce n'est pas prêcher ce que vous avez envie d'entendre, c'est prêcher ce que Jésus a dit de prêcher. Et Jésus dit qu'un jour, il reviendra. Et on verra la différence entre ceux qui l'ont accepté et ceux qui ne l'ont pas accepté. Vous voulez voir la preuve? Regardez bien. Regardez vos Bibles. Regardez au tableau si vous voulez. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 25. Et vous comprendrez bien que lorsqu'il est question de ce choix, de cette différence, ce n'est pas seulement entre les chrétiens et ceux qui sont athées. Non. La différence peut se faire entre chrétiens, mais chrétiens d'apparence et chrétiens sérieux. Regardez ce que Jésus dit. Et réfléchissons ensemble, mes amis. Car Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre sa parole. C'est Jésus qui parle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 25. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire. Vous êtes bien d'accord que là, Jésus ne parle pas de sa première venue, parce que quand il est venu, il n'est pas venu dans sa gloire. Il ne s'est pas assis sur son trône. Quand il est venu la première fois, Jésus est venu dans l'humilité, la simplicité. Là, il parle de son retour en gloire. Qu'est-ce qui va se passer? Lisez avec moi. Verset 32. La Bible dit, « Lorsque Jésus va revenir, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. » Notez trois choses dans ce verset. La première chose, c'est que quand Jésus revient, c'est pour séparer, c'est pour montrer la différence, c'est pour juger. La deuxième chose, quand Jésus revient, le jugement ne sera pas pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la France, pour Israël, ce sera un jugement universel. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ce sera un jugement universel pour tout le monde en même temps. Et qu'est-ce que Jésus va séparer? Est-ce qu'il va séparer les escargots d'avec les chevaux? Je ne me suis pas fait comprendre, je reprends. Quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il va séparer? Les escargots d'avec les chevaux? Est-ce que c'est ça? Non, parce que les escargots et les chevaux n'appartiennent pas à la même espèce. Qu'est-ce que Jésus va séparer? Dites-moi, mes amis. il va séparer les brebis d'avec les boucs. Les brebis et les boucs ont un point commun. C'est que les brebis et les boucs appartiennent à la même espèce. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Donc, Jésus est en train de nous dire ici que la séparation va se faire pour tout le monde, mais que la séparation va même concerner une même espèce. Et cette espèce-là, cette variété d'hommes, eh bien, ce sont ceux qui se disent chrétiens. Même dans cette variété-là, il y aura une séparation. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront dans mon royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mes amis, il ne suffit pas d'être chrétien pour être sauvé. Et je vais même lancer une grosse roche maintenant. Il ne suffit pas d'être adventiste pour être sauvé. Car si simplement, on est un adventiste d'apparence, de nom, on ne sera pas sauvé, mes amis. Ce qu'il faut, c'est prendre à cœur la parole de Dieu et vivre cette parole sérieusement. Il ne suffit pas de dire, j'ai grandi dans une religion, maman, je continue là. Non, mes amis. Il faut chercher quelle est la véritable volonté du Seigneur. Où est sa parole? Où est son église? Où sont ses commandements? C'est ce qu'il faut chercher. Et donc Jésus va séparer. Il va séparer. Et regardez la suite, verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, qu'est-ce qu'il leur dira? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, ceux-là, ils entrent dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui seront à sa droite, il leur dira, venez et prenez possession du royaume de mon Père. Et le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il leur dira? Matthieu 25 toujours, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, ce n'est pas de la politique qui est là, mes amis. Hein? Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, mes amis, un jour, il y aura une différence nette entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Un jour, il y aura une différence nette entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui rejettent le Seigneur. Mais je voudrais vous faire noter une chose que certains d'entre vous savent déjà. Regardez pour qui le feu a été préparé. Dites-le-moi. Pour qui? Pour le diable et ses anges. Dieu n'a jamais préparé de feu pour l'homme. Ce que Dieu veut détruire, ce n'est pas l'homme, c'est le diable, c'est le mal, c'est le péché. Mais parfois, nous sommes tellement attachés au diable, tellement attachés au péché, que lorsque Dieu détruit le diable, lorsque Dieu détruit le péché, eh bien, c'est ce qu'on appelle un dégât collatéral. Dieu ne vise pas l'homme, Dieu vise le péché. Dieu ne vise pas l'homme, Dieu vise le diable. Mais si les pratiques du diable sont dans mon cœur, si la main du diable est dans ma bouche, si le péché est dans ma tête, quand Dieu détruit le péché, moi aussi je suis détruit. Mais Dieu ne veut pas détruire un homme, Dieu ne veut pas te détruire. Sache ce soir,
que si tu prends conscience que tu vis dans le péché, que Dieu ne veut pas te détruire. Dieu veut détruire le mal, mais pas toi. Si tu attends le retour de Jésus pour abandonner le péché, tu seras détruit en même temps que le péché. Mais si ce soir, tu dis à Jésus, « Détruis le péché qui est en moi », alors Jésus va utiliser la douceur, la précision d'un chirurgien. Il va envoyer son Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit va pénétrer les cellules de ton cerveau. Ton cerveau ne sera pas détruit, ton corps ne sera pas détruit, mais avec patience, avec douceur, le Saint-Esprit va entrer dans ton corps. Il va entrer dans ta tête, il va entrer dans tes pensées, il va entrer dans ta vie et il va détruire le péché. Mais si tu attends le retour de Jésus, au moment du retour, Jésus ne va pas utiliser cette arme. Il va utiliser une arme de destruction massive. Maintenant, Jésus te dit, sauve-toi. Demande-moi de te libérer du péché et je vais te sauver. Oh oui, mes amis, Jésus nous aime tellement. Jésus a tellement envie de détruire le péché en nous. Jésus a tellement envie que nous puissions ressusciter pour la vie éternelle que Jésus a accepté. Lui qui n'avait jamais péché, il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de ressusciter le troisième jour pour déblayer un chemin pour toi. Ne soyez pas choqués. Ne le prenez pas mal. Mais imaginez que vous êtes dans la tempête. Imaginez qu'il y a une tempête et parfois le monde est toujours dans une tempête, pas vrai? Imaginez qu'il y a une tempête et les branches tombent. Il y a des éboulis. Votre route est bloquée. Est-ce que vous seriez content au milieu de la tempête de voir apparaître un énorme tracteur? Un tracteur gigantesque qui se met devant votre voiture. Et le tracteur commence à déblayer le chemin pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous seriez resté là? Est-ce que vous auriez dit, mais non, qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-le-moi, je vous en supplie, dites-le-moi. Vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi? On aurait suivi le tracteur? Mais est-ce que vous auriez suivi le tracteur de loin? De près? Pourquoi de près? Dites-moi. Parce que si vous le suivez de loin, comme c'est la tempête, le tracteur a déblayé le chemin, mais vous venez un kilomètre derrière, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Eh bien, d'autres choses tombent sur la route, mais le tracteur est loin. Donc, à ce moment-là, on se colle au tracteur et on suit le tracteur. Eh bien, mes amis, imaginez que Jésus est un énorme tracteur, le plus puissant des tracteurs, et que Jésus est venu dans le monde pour déblayer ton chemin. Jésus est venu dans le monde pour débarrasser ta route. Jésus est venu dans le monde pour ouvrir la voie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le, là, et là. Alléluia, mes amis. Oui, mes amis, Jésus est venu pour ouvrir un chemin pour toi. Quel chemin Jésus est venu ouvrir? Le chemin de la résurrection pour la vie éternelle. Regardez comment la Bible dit cela. Dans le livre des Actes, au chapitre 2. Le livre des Actes est juste après les Évangiles. Le livre des Actes au chapitre 32. Au chapitre 2 plutôt. Le livre des Actes au chapitre 2. Regardez comment la Bible dit que Jésus est venu déblayer un chemin pour nous. Jésus est venu déblayer le chemin de la vie. Il est venu nous débarrasser de la mort pour nous donner la résurrection. Comment la Bible dit cela? C'est l'apôtre Pierre qui prêche. Il prêche un peu comme nous prêchons ce soir. Pierre prêche, Il parle de Jésus, il parle de sa mort, il parle de sa résurrection, il parle de la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre, dans sa prédication? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez. La Bible dit que le Jésus qui a été crucifié, il a été fait Seigneur et Christ. Autrement dit, la mort n'a pas pu garder Jésus. La mort ne l'a pas gardé. Après la mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité pour le jugement. Pourquoi il n'est pas ressuscité pour le jugement? Parce qu'il n'a jamais fait le mal. Il est ressuscité pour la vie et la vie éternelle. Tellement qu'il est éternel, tellement qu'il n'a pas perdu son caractère éternel à cause de sa marche sur la terre, la Bible dit qu'après la résurrection, il a été fait Seigneur et Christ. Mes amis, ce que nous disons maintenant est solennel. Nous marchons sur la terre. Et dans notre marche sur la terre, nous pouvons perdre la vie éternelle parce que le mal nous guette. Le mal couche à ta porte. Mais Jésus a marché sur la terre et le mal ne l'a pas atteint. Il a déblayé le chemin pour toi. Et Jésus dit, si tu m'acceptes, si tu t'accroches à moi, si tu me suis de près, si tu te colles à moi, j'ai déblayé un chemin pour toi. Tu arriveras au ciel, tu arriveras à la résurrection, tu arriveras à la vie éternelle sans encombre si tu me suis de près. Et tellement que ce que je vous dis est vrai, les gens qui ont entendu ce discours, qui ont entendu cette prédication, regardez quelles questions ils posent à Pierre. Ils posent à Pierre une question très simple. Verset 37. Quelle question qu'ils posent à Pierre? Après avoir entendu ce discours, les auditeurs, les gens qui étaient là, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui est sensibilisé à ce que nous disons et qui se dit en lui-même, « Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Seigneur, quel choix je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » Alors, si tu te poses cette question, tu te poses la même question que toutes ces personnes se sont posées ce jour-là. Et si tu veux la réponse qui leur a été donnée, c'est la même qu'il te faut ce soir. Et je suis content. Je suis content que cette réponse ne vienne pas de moi. Parce que si elle venait de moi, on aurait dit, oui, pasteur, bousin, fais affaire marcher. C'est pour ça qu'il a dit nous ça. Mais mes amis, ce n'est pas pasteur qui a dit ça. Parce que pasteur lui-même, il était qu'à marcher en bas tout décombre qui n'y. Et mon bagaille dit ça ici pour ne pas choquer les autres. Il était qu'à marcher en bas toute la boue qui était née, toute feuille bois qui était née. Mais là, il joint Jésus-Christ. Là, il t'en parlait de la mort éternelle, de la vie éternelle, des conséquences du péché. Il n'a pas gardé si camarade t'es qu'a fait la fête et pays. Il n'a pas gardé si il t'es qu'a moqué quand il dit. Il accepte Jésus. Il bat bon Dieu la vie. Il fait sa pierre qu'a dit en Bible là. Alors mes amis, je ne sais pas si vous avez fait pour moi, et puis je sais que c'est ça. Vous avez des gens qui font ça. Vous avez descendu en ville, vous avez trouvé un magasin qui n'y a bon affaire. Vous avez fait Yo sapé. Là, on m'a dit, yo koto ou acheté ça. Ah, moi, j'ai oublié. Pouchi, parce qu'il parle aux bénéficiaires, il parle aux entrants en bail là. Il est toujours à marcher en rayon, déglingué. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, là où trouve un bon affaire, ou qu'à partager et puis tout le monde. M'en paix des autres, mes amis, ni on de l'année, m'en fait bon affaire là, m'en pas jamais regretté. Et c'est quoi cette bonne affaire? Alors peut-être que c'est brutal, hein? Je vous avoue, c'est brutal. La réponse de Pierre est brutale, hein? Pierre ne met pas de gants. Pierre n'enveloppe pas ça dans de la farine. Pierre n'essaye pas de prendre des gants, des minuties. Parce que mes amis, en fait, ça c'est votre préféré. Un monde qui a dit la vérité, franchement, simplement, sans passion, ou bien un monde qui a tergiversé, qui a tiancé, il l'a dit, bah, il n'a pas l'a dit, mais à la fin, il a toujours dit. C'est ça votre préféré? Eh bien non. L'évangile pas qu'à marcher comme ça. L'évangile c'est clair, c'est sincère et c'est droit au but. Lorsque les gens ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Voici ce que Pierre leur a déclaré. Pierre leur a dit au verset 38, regardez ce que Pierre leur a dit. Pierre leur dit quoi? C'est très simple. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a des gens parfois qui disent, je ne pas dire mais aller quand c'est adventiste là parce que dès pour aller là, il y a toujours des gens baptisés, baptisés, baptisés. C'est pas vrai? Mais oui, c'est vrai. Il y a toujours des baptisés, baptisés. C'est adventiste, là, pas dit mal en réunion, yo. C'est baptisé. Mais mes amis, ce n'est pas adventiste qui a dit moun baptisé, c'est la Bible qui a dit ou baptisé. Et la Bible n'a pas développé ça dans la pièce France antique. Il a dit, on crie en l'homme, baptise-toi et repens-toi. Alléluia. Oui, mes amis, car vous m'avez dit tout à l'heure, si vous êtes dans la tempête, et que vous rencontrez un tracteur qui va déblayer le chemin pour vous. Vous m'avez dit tout à l'heure, je vais suivre le tracteur de près. Je vais me coller dessus. C'est Zot qui dit moi ça, t'as là, c'est pas moi qui dit. Mais mes amis, pourquoi est-ce que vous allez faire ça pour un tracteur, un tas de ferraille, et puis pour Jésus, vous n'allez pas de fer? Et Jésus est venu déblayer un chemin pour toi? Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Alors tu suis un tracteur de près, simplement pour épargner ta voiture dans une tempête. Et puis ta vie éternelle, ton salut éternel, pour éviter le feu destructeur, tu ne suis pas Jésus de près. Mais mes amis, quiconque suit Jésus de près se baptise parce que Jésus lui-même a été baptisé. Jésus a commencé son ministère par son propre baptême. Et Jésus dit que lorsqu'on se baptise, on fait alliance avec lui. Jésus dit que lorsqu'on se baptise, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers lui. Jésus dit que lorsqu'on se baptise, on devient une même plante avec lui. Jésus dit que lorsqu'on se baptise, on meurt au péché et on ressuscite à une vie nouvelle. Et puis, mieux encore, regardez ce que dit Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Mieux encore, Jésus est encore plus direct que Pierre. Jésus est encore plus brutal que Pierre. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas et donc qui ne se fera pas baptiser, il sera. Mes amis, je suis gêné de lire ça. Parce que moi, je n'aurais jamais osé vous dire une chose pareille. Mais c'est Jésus qui l'a dit. Et si vous me dites que vous aimez Jésus, si vous me dites que vous êtes croyant, eh bien, vous devez accepter la parole de Dieu, quand la parole de Dieu, même quand elle vous dérange, Mes amis, ce n'est pas Dieu qui doit s'arranger à notre sauce. C'est nous qui devons nous arranger à la sauce de Dieu. Dieu s'est déjà arrangé à notre sauce, hein? Parce que Christ a laissé sa gloire. Il a laissé son règne. Il a laissé son trône. Et il est venu sur terre, on lui a craché dessus. On l'a couronné d'épines. On l'a mis tout nu dans une foule. On l'a crucifié. Jésus s'est déjà arrangé à ta sauce. Jésus s'est déjà fait homme pour toi. Jésus a déjà connu la douleur pour toi. La Bible dit que ce sont de nos péchés qu'il s'est chargé. Ce sont nos iniquités qu'il a portées. Jésus a déjà fait un grand pas vers toi. Tu ne peux pas demander plus à Jésus. Jésus a déjà fait le maximum pour toi. Maintenant, il y a un tout petit pas à faire. Jésus a fait le grand pas. Il a fait le grand saut. Il est sorti de son trône, de son ciel, de la gloire éternelle, de la félicité. Il est sorti de l'entourage, de la louange des anges. Il a laissé tout ça pour venir vivre parmi des brutes sauvages pour toi. Jésus a déjà fait beaucoup. Il a déjà fait le plus grand pas. Jésus a déjà pratiquement tout fait pour toi. Le salut t'est offert aujourd'hui. Jésus te dit, il ne reste qu'un petit pas. Mais il dit, ce petit pas-là, moi, je ne peux pas le faire. C'est toi qui dois le faire. Jésus dit, j'ai créé l'homme libre. L'homme n'est pas un pantin entre mes mains. L'homme n'est pas une marionnette. Je te laisse la liberté. Je te laisse participer à ton salut. Et Jésus dit, je ne peux pas changer ma parole pour toi. Souvenez-vous, mes amis, Jésus avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit. Quand ils ont mangé le fruit, Jésus n'a pas changé sa parole. Il n'a pas dit, bon, je vous comprends, vous avez mangé, bon, on va arranger ça, on va négocier. Non, Jésus a dit, ma parole ne change pas. J'ai dit de ne pas manger, il ne fallait pas manger. Est-ce que vous pensez qu'au moment où Jésus chassait Adam et Ève du jardin, quel sentiment il avait quand il faisait ça? Est-ce que vous pensez qu'il les chassait avec colère? Est-ce que vous pensez qu'il les chassait avec beaucoup de haine? Non, certainement pas. Et la Bible dit que Jésus pleure. La Bible dit que Jésus pleure. Donc, je peux imaginer qu'au moment où Jésus les faisait sortir du jardin, Jésus pleurait, mes amis. Jésus était accablé. Il pleurait. Mais en même temps, il leur disait, mes amis, vous savez, je compatis, je comprends, mais je ne peux pas changer ma parole. Je suis obligé de vous faire sortir. Mais il leur dit, seulement je vous fais sortir, mais je ne vous abandonne pas. Je vous fais sortir, mais je serai toujours avec vous. Je vais marcher avec vous. Je vais vous donner de l'aide, du secours. Eh bien, de la même manière, Jésus a dit ce soir, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ne dis pas à Jésus, je ne peux pas me baptiser pour telle raison. Je ne peux pas me baptiser pour telle et telle chose. Je ne peux pas me baptiser parce que je ne peux pas. Jésus va te répondre, je te comprends, je suis désolé, je pleure. Mais je ne peux pas changer ma parole pour toi. Je ne vais pas la changer. Si tu me dis, tu ne sais pas comment faire. Si tu me dis que tu as besoin d'aide. Si tu me dis que tu as besoin d'un certain temps pour te préparer. Tu as besoin de comprendre, de soutien. Je serai là avec toi. Mais si tu me dis, je ne veux pas, je ne marche pas dans ça, Jésus va te dire, non, je ne peux pas changer ma parole pour toi. Alors peut-être tu lui diras, Jésus, je suis déjà baptisé. Alors Jésus va te répondre, dans ce cas, tu es plus grand que moi. Parce que moi, j'ai été baptisé dans le Jourdain, pour te donner un exemple. On m'a plongé dans l'eau. J'ai été baptisé en me plongeant dans l'eau. Pour te donner un exemple, Et toi, tu as été baptisé quand tu n'étais même pas conscient ou consciente. On t'a versé un peu d'eau sur la tête et tu me dis que tu es baptisé. Donc finalement, qui c'est qui est le maître? C'est toi ou c'est moi? C'est toi qui donne le bon modèle ou c'est moi qui donne le bon modèle? Mes amis, ne soyons pas maîtres. Soyons disciples. Ne soyons pas plus grands que Jésus. Humilions-nous devant notre Sauveur, car notre Sauveur s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour que nous soyons sauvés. Ne soyons pas plus grands que Jésus, parce que Jésus n'a pas été plus grand que ce qu'il ne devait être. Il a accepté toutes les brimades pour que tu sois sauvé. Et ce soir, mes amis, au nom de Jésus, pour que vous puissiez éviter ce feu de destruction, pour que vous puissiez, comme Jésus, ressusciter pour la vie éternelle, nous vous en supplions par les paroles de la Bible et au nom du Saint-Esprit. Soyez baptisés comme Jésus a été baptisé. Prenez la décision d'être baptisé. Je ne vous dis pas demain, je ne vous dis pas forcément samedi, mais prenez la décision de dire, il faut qu'un jour je sois baptisé comme Jésus. Prenez cette décision ce soir, mes amis. Et si vous voulez prendre cette décision, vous voulez la notifier, vous voulez étudier, vous voulez vous engager, vous voulez que je prie pour vous, je demande aux hôtesses, à tout le personnel de l'accueil, de passer dans les rangs avec des fiches blanches, rapidement s'il vous plaît. Et tous nos amis, toute personne ici qui n'a pas encore été baptisée comme Jésus a été baptisé, faites un petit signe discret quand les hôtesses vont passer. Prenez une feuille, remplissez-la dans votre intimité. Remplissez cette feuille dans votre intimité. Prenez cette feuille, mes amis, je vous en supplie. Discrètement, faites un signe. Tous ceux qui n'ont pas encore un jour été baptisés comme Jésus, prenez la feuille et lisez-la. Remplissez-la. Faites un signe. Prenez cette feuille. Tous ceux qui n'ont pas encore un jour été baptisés comme Jésus, je demande aux hôtes et aux hôtesses de se déplacer partout. Il faut que tous puissent avoir accès à vous. Donnez à toute personne qui n'a pas encore été baptisée cette feuille. Ce n'est pas une demande de baptême pour demain. Ce n'est pas une demande de baptême pour la semaine prochaine. C'est une décision pour dire, comme Jésus, je sais qu'un jour je dois être baptisé. Prenez cette décision pour être sauvé, mes amis. Prenez cette décision pour appartenir à Jésus-Christ. Remplissez votre feuille, complétez-la. Et nous allons chanter maintenant. Nous allons prier après le chant pour vous. Pasteur Adrassé et moi, nous allons nous tenir à la porte. Les anciens vont se tenir aux portes. Et lorsque vous sortez, remettez-nous cette feuille. Et nous allons prier pour vous pour que le Seigneur libère votre chemin. Qu'il dégage la voie. Que vous puissiez trouver votre chemin. Que vous puissiez entrer un jour dans la vie éternelle. Si vous mettez vos coordonnées, nous allons vous contacter, prier avec vous, vous donner des études bibliques si vous en avez besoin. Nous prendrons le temps qu'il faut. Nous allons vous préparer. Nous prendrons le temps qu'il faut avec vous. Et quand vous serez prêts, eh bien vous allez décider d'être baptisé comme Jésus. Je vous en supplie, mes amis. Prenez cette feuille. Remplissez-la. Prenez cette feuille, vous qui n'avez jamais été baptisé comme Jésus. Remplissez-la. S'il y a des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais vous n'avez pas encore pris cette décision, remplissez votre feuille. Remplissez-la, mes amis. Dites oui à Jésus. Ne dites pas non à Jésus, celui qui est mort pour vous. Oh, je vous en supplie, mes amis. Ne pensez pas au quand dira-t-on. Ne vous laissez pas arrêter par la tradition. Ce soir, vous avez vu plus que la tradition. Vous avez vu la parole de Dieu. Oh, je demande à l'Église de prier. Priez pour que le Saint-Esprit nous aide à prendre la bonne décision. Prions, mes frères et sœurs, pour que ceux qui luttent puissent prendre une décision, celle que deux jours d'appartenir à Jésus. Oh, je vous en prie, remplissez votre feuille. Levons-nous pour chanter la fin du chant. Et je demande aux anciens de se placer déjà dans chaque porte, dans toutes les portes. et nous irons après la prière. Nous irons et nous serons là pour recueillir vos feuilles. Mes amis, ne laissez pas passer cette décision. Jésus vous appelle. Jésus nous appelle. Jésus est mort pour nous. Jésus a été baptisé pour nous. Jésus est ressuscité pour nous. Suivons Jésus de près. Comme Jésus, soyons baptisés. Comme Jésus, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Je vous en supplie, suivons Jésus de près. Nous prions notre Dieu, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, car tu es un Dieu bon, plein d'amour, plein de tendresse. Mais surtout, tu es un Dieu prévenant. Tu ne nous prends pas par surprise, Seigneur. Longtemps à l'avance, tu nous révèles ton plan. Tu nous montres tout, tu nous dis tout. Ta parole nous révèle tout, Seigneur. Et ce soir, tu nous as tout révélé concernant nos choix, concernant notre destinée. Tu nous as tout révélé concernant le moyen d'atteindre la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que tu as préservée pendant les siècles. Tu as gardé ta parole pendant les siècles pour que ce soir, nous puissions lire cette parole. Ô Jésus, la parole, c'est toi. Tu es l'acteur principal. C'est toi que nous trouvons dans la Bible. Et quel Jésus merveilleux nous trouvons dans la Bible. Un Jésus qui a accepté de tout abandonner pour nous. Un Jésus qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. Un Jésus qui est ressuscité pour nous. Un Jésus qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Un Jésus qui nous dit ce soir, si tu as péché, si tu es encore dans le péché, viens à moi, je te délivre. Viens à moi, je te bénis. Un Jésus qui nous dit, abandonne le péché maintenant, car si tu attends le jour de mon retour, ce sera trop tard. Tu nous bénis ce soir, Seigneur, en nous offrant le salut. Et je te prie, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer ton Saint-Esprit dans ce lieu. Que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que ton Saint-Esprit parle au cœur de cette personne qui n'avait pas accepté la feuille. Maintenant, que ton Saint-Esprit parle à son cœur. Ô Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur, Seigneur. Révèle-toi. Et permet qu'elle puisse dire, avant de partir, il me faut prendre cette décision pour Jésus. Ô Seigneur, que ton Saint-Esprit parte avec nous et que ce soir, sur nos couches, que ton Saint-Esprit laboure nos consciences, que ton Saint-Esprit nous tienne éveillés jusqu'à ce que nous ayons compris ton amour, jusqu'à ce que nous ayons accepté d'abandonner les rangs de Satan pour passer à droite, pour passer dans les rangs de Jésus. Ô Seigneur, s'il te plaît, renvoie-nous. Renvoie-nous, mais avec ton esprit. Que ton esprit nous accompagne. Que ton esprit nous parle. Que ton esprit ramène à notre mémoire la parole que nous avons entendue ce soir. Ô Seigneur, s'il te plaît, renvoie-nous avec ton esprit et permets que ce même esprit nous ramène ici vendredi soir et que vendredi soir encore nous soyons bénis par notre Père et notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel prenne soin de vous, que l'Éternel prenne soin de vos soucis et de vos tracas, qu'il comble vos besoins matériels, spirituels et physiques, que l'Éternel nous garde tous et qu'il nous donne sa paix, sa grâce et sa joie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit béni et que tous ceux qui croient disent Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.